acquis. Ils ont du cash pour les GIA, mais pas pour sauver des vies. CIA, coup d'état, sans coule encore. La Maison Blanche complice, signe les arrêts morts. Les intérêts américains assurés par la dictature. Y'a plein de peuples qui se retrouvent sur des régimes de torture. L'ordre capitaliste de droite maintenu sur pied. Le monde des affaires dominant, les travailleurs exploités. Supposés défenseurs, la justice et de la liberté. Leur permis de tuer, sans scrupule, toujours censuré. Sans remords, rien qu'en toute forme de résistance. Faut pas inspirer d'autres nations à l'indépendance. Contre le scam, ce sale hypocrite qui ferait n'importe quoi pour l'argent comme un junkie pour son hit. Rien pour apaiser son abominable appétit. Regarde dans le reste du monde avec le plus grand des mépris. Dieu, l'honneur, la patrie, astique, j'ai saï. Si la terre a un nombril, il s'appelle États-Unis.
Le pays des temps, uni par le sang. Assassinat, coup d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaude, les patries remplies de fouet. Au prix de tout, pour un autre étoile dans leur drapeau. Le pays des temps, uni par le sang. Assassinat, coup d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaude, les patries remplies de fouet. Au prix de tout, pour un autre étoile dans leur drapeau.
Mayday, Air Force on va se crasher. Jugement dernier pour une nation menacée. Assis sur le toit du monde, King of the Hill. Gardien de la paix sur les territoires hostiles. Ingérence, insouciance, aucune tolérance. CIA, NSA, paranoïa, méfiance. Font plus la différence. L'ennemi, c'est le peuple, interne ou externe. Problème, on l'enferme. Grand déploiement, Hollywood style pour les médias. C'est la guérilla, bienvenue aux USA. Attentat terroriste, milice raciste. Fini le communisme, on traque des islamistes. Une vie de rêve dans le ghetto, des dealers en beamer. La banlieue, puis les serial killers. American dream, the land of the free.
Toujours sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ça, c'était la musique, c'était Cavalier Noir, les maîtres du monde. Maintenant, nous avons dans le studio une autre personne, la troisième de la journée, Abdelhadi Kaderi. Bonne année, Abdelhadi.
Bonjour et bonne année à tous et toutes.
Abdelhadi Kaderi est un membre actif avec l'Observatoire de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, un Montréalais d'origine afghane. Abdelhadi, t'es né à Jalalabad, en Afghanistan. Comment t'es rendu ici au Canada?
Exactement, je suis né à, juste à 30 km de Jalalabad, un petit village. Mais moi, j'ai fait comme un peu le nomade, grâce à la guerre impérialiste sur toutes ses formes. Et moi, je suis grandi un peu à Jalalabad, mais après au nord de l'Afghanistan. Et après ça, la guerre nous a amené au Pakistan. Et enfin, je suis rendu à Montréal.
Et maintenant, tu es actif dans plusieurs luttes, mais tu es le fondateur de l'Observatoire de l'Asie centrale du Moyen-Orient. C'est quoi ce groupe? C'est quoi votre travail?
Je suis le cofondateur. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous de diverses origines. Et notre mission, c'est juste de faire plus de réflexions sur tout ce qui se passe dans l'Asie centrale et au Proche-Orient et Moyen-Orient. Et de voir toute la souffrance que les gens y suivent. Pourquoi cet observatoire, en même temps qu'il existe beaucoup de médias et tout ça à Montréal? Et pour la simple raison que tout ce qu'on attend sur les médias officiels et même certains médias alternatifs, ils ne sont pas assez informés ou ils ne veulent pas informer des gens sur ce qui se passe réellement. Et moi, quand je dis j'ai vécu cette souffrance et je vis cette souffrance à l'intérieur de moi, et pour partager ça, on essaye de faire une réflexion.
L'année 2006, pour les militants, c'était occupé beaucoup, pas plusieurs choses, mais une chose, c'était le rôle canadien en Afghanistan, à Afghanistan. Et vous êtes un de les Afghans très ouvert, très public, à dénoncer cette occupation. Et peut-être c'est une observation superficielle, mais ça paraît que il n'y a pas beaucoup d'Afghans en exil ici à l'Amérique du Nord qui sont prêts à dénoncer ouvertement l'occupation. On a attendu au début de la journée aujourd'hui un discours de Sonali Koltakar quand elle était à Montréal. Elle a parlé de RAWA, The Revolutionary Association of Women of Afghanistan. Mais à part le rôle de RAWA, ça paraît, comme j'ai dit, peut-être c'est une observation superficielle, mais ça paraît qu'il y a un manque de ces voix. Alors, pourquoi tu as pris cette position et est-ce que vous partagez mon observation de la communauté afghane à l'Amérique du Nord?
Mais premièrement, je vais vous expliquer un phénomène. Comme on dit à Montréal, on peut dire de Montréal qu'est-ce qui est généralement présent à Montréal, mais on parle jamais des gens de Hochelaga-Maisonneuve, que dans quelle misère ils vivent. Les mêmes choses pour la communauté afghane. Quand ils viennent ici, ils n'ont pas les mêmes possibilités de s'exprimer. D'abord et avant tout, quand ils viennent, il faut qu'ils travaillent pour nourrir leurs enfants et une partie de leur famille qui reste là-bas dans la misère. Dans ce contexte, premièrement, c'est une raison économique. Deuxièmement, une raison politique. Quand vous pouvez vous souvenir des manifestations contre la guerre au Liban, quand on était dans la rue de toutes les gens, de toutes les horizons, et on parlait contre l'invasion israélienne, mais on était étiqueté de toutes les intégristes et des Hezbollah. Pour les mêmes raisons, des gens qui s'opposent, ils n'ont pas facilité de s'exprimer. Parce que chaque fois qu'ils s'expriment, on leur dit que vous êtes des communistes. Imaginez-vous, avec cette étiquette, comment c'est difficile pour ces sociétés, et même les femmes particulièrement, qui vivent encore dans une oppression de classes religieuses et culturelles et sociales à Montréal et au reste du Canada. Et est-ce que pensez-vous que ces gens-là, ils peuvent s'exprimer?
Alors, ça, c'est les défis, mais malgré ces défis, vous-même, vous avez exprimé ouvertement pourquoi vous avez pris cette position très publique contre l'occupation ou le rôle canadien. Canada justifiait son rôle en Afghanistan avec une théorie, un mandat qui s'appelle la responsabilité de protéger. Le gouvernement libéral et maintenant le gouvernement conservateur dit « Nous sommes là pour aider les femmes afghanes, pour contrer le Taliban. Ce n'est pas une occupation. » Alors, pourquoi vous êtes contre cette justification canadienne?
Moi, comme je dis, la raison fondamentale, c'est que moi, j'ai vécu en Afghanistan dès le début des années... Moi, je suis né en 70, ça veut dire que j'ai vécu dès le début de la révolution afghane et de voir comment ces choses ont évolué. Des choses, si on compare le raisonnement du gouvernement canadien en Afghanistan, qui disent qu'on est là pour construire des écoles, des hôpitaux ou supposément des infrastructures, que toutes les ONG nous disent le contraire, qu'ils n'ont pas fait grand-chose. C'était la même chose qu'ils faisaient, et pour la vérité, le gouvernement socialiste afghan de 78, mais on a dit que ce gouvernement était corrompu, qui était mené par la Union soviétique, et quand après toutes deux années de guerre d'opposition menée par les Américains et par l'Arabie saoudite, le gouvernement afghan, les soviétiques sont intervenus, on a dit que c'était une invasion. Ça veut dire qu'il n'y a aucun gouvernement qui a droit d'intervenir dans un pays. Et aujourd'hui, on fait les mêmes choses. Les Américains et les Canadiens, ils s'en vont. Ils enlèvent un gouvernement qui est en place, ça veut dire que ce soit des talibans, soit n'importe qui, mais c'est un gouvernement afghan. Et on prétend qu'on essaye d'aider les femmes afghanes et les gens, mais moi, par mon expérience et aussi par mes contacts que je garde avec l'Afghanistan, avec tous les gens qui vivent, soit des ONG, des femmes afghanes, comme vous venez de parler d'avant, mais il y a d'autres ONG qui ne sont pas nécessairement des gens révolutionnaires, mais des gens qui veulent aider le monde. Ils sont tous opposés à toutes sortes d'ingérences étrangères, particulièrement les Canadiens et les Américains. Comme justement, j'ai écouté une journée de poésie hier qui s'est faite il y a deux mois au Jalalabad. Tous les poètes, ils s'opposaient fermement à l'invasion américaine et à toutes sortes de complots qui mènent au nom de l'aide humanitaire et de l'aide au peuple afghan. Et en réalité, on peut voir aussi pourquoi il y a une augmentation de part des talibans ou tout d'autres groupes qui s'opposent à la présence canadienne. Ce n'est pas parce que ils veulent mourir, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Quand vous allez juste aller au Kaboul, qu'on peut dire c'est la capitale où il y a plus d'aide, des gens, les pauvres, ils vivent dans la misère. Les veuves, ils ont misère à nourrir leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des ONG canadiens et américains, et le gouvernement et les diplomates, ils sont capables de payer des grands loyers, de dépenser avec leurs dollars. Et de la population, ils l'ont local, n'a même plus les possibilités de trouver un logement. Imaginez-vous, dans ce contexte, pour moi ici, comme étant un militant, je ne peux pas rester silencieux.
Abdelhadi, j'ai participé dans un débat sur le rôle canadien en Afghanistan. Et un militant ici, une femme afghane, elle a dit « Oui, c'est une situation difficile. Je ne suis pas pour les Américains, mais on est rendu dans une situation où c'est un choix entre l'occupation américaine ou le Taliban. Et entre ce choix, je choisis qu'est-ce qui se passe maintenant, même si je suis critique vis-à-vis les Américains. » Alors, c'est quoi votre réponse à cette façon de garder la lutte? Le menace de Taliban, le fait que le Taliban, surtout leur politique vis-à-vis les femmes, c'est pire que l'occupation américaine. C'est quoi vos réactions à cette point de vue?
À mon point de vue, moi, d'une part, parce que moi, je suis étudiant en sciences politiques à l'UQAM, c'est ça qu'on va avoir la distinction, parce qu'il y a des gens qui vivent ou qui s'expriment beaucoup avec juste le sens d'une manière sentimentale, au lieu de voir les enjeux au profond, qu'est-ce qu'il y a. Comme, prenons l'exemple du Canada, s'il dit qu'on est là pour aider des gens, pourquoi on ne va pas mettre des milliards de dollars en Haïti, qui est juste à côté de chez nous, pour aider des gens? Et aussi, dans le cas de Palestine, on a vu, dans le cas du Liban, on va pas aller aider des gens. Ici, en Afrique, des gens qui meurent à cause de sida, et qu'il y a des médicaments sur le marché qu'on peut les fournir, mais on fournit pas. Mais on va en Afghanistan. Est-ce que vous croyez, et est-ce qu'il faut être vraiment naïf pour croire qu'ils vont aller aider des gens? Et particulièrement sur la question des droits des femmes. Présentement, selon le BBC, 80% de tous les parlements provinciaux en Afghanistan sont composés de criminels de guerre. Et aussi, le constat se fait même pour les 60% des députés du parlement fédéral au Kaboul. Est-ce que qu'est-ce qu'on est en train de protéger? Est-ce que c'est les criminels de guerre ou les femmes afghanes? Est-ce que vous pouvez me donner juste un détail? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes au nord de l'Afghanistan? On a vu, même la Radio-Canada, avec toutes ses subjectivités, ils n'arrivent pas à cacher la réalité qui vit les femmes afghanes dans le nord de l'Afghanistan. Parce qu'on parle toujours de la soude qui est face à Taliban, mais qui n'est pas vrai non plus, parce que toutes les insurgés ne sont pas nécessairement talibans.
Abdelhadi, le fin de septembre, Hamid Karzai, le président de l'Afghanistan, a visité Montréal. Je sais que ce n'est pas la première fois, mais je me rappelle de te voir pour la première fois à cette manifestation devant un hôtel au centre-ville. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes une centaine, etc. Pourquoi tu étais là? Qu'est-ce que vous pensez de Karzai comme figure? Il est utilisé comme beaucoup des enjeux, comme un exemple de quelqu'un de courage, un Pashtun qui a décidé de prendre des risques. Pourquoi tu étais là en fin de septembre pour manifester contre sa présence à Montréal?
Premièrement, juste pour vous rappeler que moi je suis ici actif depuis la même quand il y a eu l'événement dans septembre, j'étais déjà dans la rue parce que je savais ce qu'il allait s'en venir. Ça veut dire moi j'étais très clair que les Américains allaient attaquer en Afghanistan parce que c'est l'excuse, c'était très clair, c'est l'Osama Bin Laden ou tout ce qui se passe. Mais juste depuis le 11 septembre, quand on a attaqué l'Afghanistan, il y a eu plus de 30 000 Afghans morts. Face à ça, Karzai, il vient faire trois fois, quatre fois sa présence à Washington, et aussi il passe par le Canada en prétendant qu'ils sont là pour la paix et la sécurité. Pour moi, c'est un devoir fondamental de s'opposer à ça et de démasquer ces gens-là. Vous étiez là aussi, on a essayé d'entrer à une conférence qui donnait supposément aux gens ici, qui juste pour s'exprimer ou lui poser des questions, on n'était même pas bienvenus. Imaginez-vous comment des gens ordinaires ils peuvent avoir accès à ces dirigeants corrompus qui essayent de dire n'importe quoi. S'ils n'avaient rien à cacher, pourquoi ils ne laissent pas exprimer?
Abdelhadi, une dernière question. 2007 est ici, on a l'occupation continue d'Afghanistan. Le rôle canadien, selon les généraux, selon le premier ministre, c'est un engagement qui va prendre des années et des années. Stratégiquement, le mouvement anti-guerre, anti-impérialiste ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On a manifesté en octobre à l'anniversaire de l'attaque contre l'Afghanistan par les Américains en 2001. Quand Karzai était à Montréal, on a manifesté, mais à part de ces réactions, qu'est-ce que c'est nécessaire à faire ici au Canada pour cesser avec cette rôle impérialiste en Afghanistan?
Pour moi et pour mon groupe, il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ça commence par une théorie et action ensemble. Un des phénomènes que moi je constate à Montréal et à tout l'Occident, on a un groupe des intellectuels et des élites qui font que la théorie dans leur salon ou sinon dans une université. Et il y a un autre groupe de militants qui, avec toute leur bonne volonté, ils font des actions, mais leurs actions, ils ne sont pas coordonnées. Pour changer les choses, il faut mener une bataille très stratégique, mais avec une théorie fondamentale. Ça veut dire, il faut contacter, il faut voir des gens qui, s'ils sont opprimés, comme je faisais référence à Hochelaga Maisonneuve de la début, et aussi, c'est la réalité des milliers, sinon des millions de gens qui vivent dans la misère ici, ils travaillent dans les usines pour 7 $ de l'heure, il y a 200 $, ils ont misère à nourrir leurs enfants. C'est ça qu'il faut, il faut avoir une cohérence avec ça pour mener un combat anti-impérialiste dans son ensemble. Et à ce moment, on peut être capable de regrouper et de faire quelque chose. Parce que toute l'oppression qui est menée dans le tiers-monde, il est basé sur deux choses fondamentales. Premièrement, c'est l'argent. Deuxièmement, c'est les armements. Et les deux se fournissent d'ici. Vous savez très bien comme moi qu'à Montréal, on produit des bombes et des armes qui sert à tuer des gens autant en Palestine qu'au Liban, et en Afghanistan, en Afrique, et même chose en Amérique latine. Si on veut finir avec ça, il faut unir des gens et sur une théorie et mener un combat très solide d'ici.
Merci Hadi pour votre présence ici. Bonne année encore.
Merci.
Et on va continuer la lutte cette année.
Bien sûr.